Salut les rebelles intelligents. Donc cette vidéo, c'est une vidéo d'update parce que vous l'avez peut-être reconnu ici, c'est Benoît du blog Bonne Gueule. Salut. Enfin, je dis blog, maintenant c'est bien plus qu'un blog. Hein.
Ouais, merci Olivier.
Ouais. Donc, bah, ça me fait plaisir de t'accueillir à nouveau.
Moi aussi, ça fait longtemps en plus qu'on s'est pas vu.
Ça fait super longtemps et la toute première interview que j'ai fait de toi et de ton acolyte Geoffrey qui a pas pu être là aujourd'hui, elle a été publiée le 1er novembre 2012. Donc il y a il y a même 6 ans quasiment pile poil, un mois près. Je me suis dit, là je suis à Paris, c'est l'occasion, tu vois, on va faire un petit peu une update parce que j'ai entendu des rumeurs, des échos comme quoi vous êtes bien développé depuis.
Oui.
Et j'ai pas eu l'occasion sur cette chaîne de faire beaucoup finalement de suivi des gens que j'ai interviewés. Donc voilà, je pense que c'est même une première sur cette chaîne. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, après avoir vu cette vidéo si vous pensez que c'est une bonne chose et si vous pensez que je devrais en faire davantage. Et donc je me suis amusé avant que tu arrives à regarder l'interview donc de 2012. Donc, je vous invite à aller la voir hein, pour les plus curieux parmi vous. Mais d'abord, peut-être que je vais te présenter rapidement quand même parce que Bonne Gueule, peut-être que tout le monde ne connaît pas.
Oui, pourtant, tu nous as bien cité dans ton livre.
Hein. Exactement.
Et je t'en remercie.
Oui, parce que pour moi, vous êtes tellement l'exemple de ce qu'on peut faire avec du marketing de contenu et donc en proposant vraiment du contenu intéressant aux gens pour se différencier même avec un business physique. Voilà, j'ai voulu vous mettre en avant parce que vous êtes un magnifique exemple. Donc, à la base, vous êtes un blog de mode masculine. Hein.
Oui, que j'ai fondé en 2007, donc il y a 11 ans. Et effectivement, tu nous as interviewé en 2012, c'était, je crois que c'était un mois avant qu'on prenne nos bureaux à Paris. Donc le but de Bonne Gueule, c'est d'aider les hommes à se sentir bien dans leurs vêtements. Donc le pitch habituel, c'est on le fait à travers nos contenus, donc la chaîne YouTube, le contenu sur le site, bonnegueule.fr. Et à côté de ça, en 2014, après avoir vendu plusieurs infoproduits, on a décidé de lancer notre marque de vêtements. Et donc aujourd'hui, on a 2 boutiques à Paris, 1 boutique à Lyon, 1 boutique à Bordeaux. Et si Dieu le veut, une boutique à Lille au printemps 2019. Et ça, c'est un scoop pour ton audience.
Exclusivité mondiale pour vous, les rebelles intelligents. Super, à Lille, donc ma ville natale, ça fait plaisir. Ça fera
tout
plaisir aussi à Laurent Briac, qui est un grand fan de votre marque et de vos vêtements. Qu'on salue, salut Laurent. Et ça, c'est incroyable parce qu'en 2012, j'ai les chiffres parce que j'ai regardé donc tout.
Mais elle durait combien de temps cette vidéo?
Elle dure un bon 50 minutes peut-être.
Ouais, c'était une grosse interview, je m'en souviens.
Moi, j'adore faire ça, tu sais, rentrer dans le détail, c'est ce que permet le web. Hein. Tu as un format qui est beaucoup plus long potentiellement qu'à la télé. Et donc, vous avez partagé beaucoup, beaucoup de choses et c'est vraiment drôle de regarder ça avec le recul aujourd'hui. D'ailleurs…
J'ai pas osé la regarder, moi.
D'ailleurs, aussi, je pense que vous pourrez apprécier aussi l'upgrade dans la qualité de la vidéo parce que voilà, on vous met un petit extrait là, mais clairement, il y avait du boulot en termes de lumière, de positionnement des caméras aussi, de qualité des caméras. Là, c'est un petit peu mieux. Donc voilà, c'est toujours sympa de voir le chemin
parcouru. Il y avait déjà la passion de ton côté.
Il y avait la passion des deux côtés, clairement. Et ce que donc vous partagez à l'époque, Bonne Gueule, c'était à l'époque juste un blog. Vous étiez seulement entre guillemets des infopreneurs, donc aucun business physique. Comme tu le dis, vous n'aviez pas encore lancé vos propres vêtements.
Ouais. Alors par contre, c'était en 2012. En juin 2012, on avait fait une collaboration sur un jean avec une marque. Donc ça a été un peu notre premier pas, mais notre demi-pas dans le physique. On s'est associé à une marque de jeans qui s'appelle Rensen, dont la boutique n'est pas très loin d'ici d'ailleurs. Mmh. On avait acheté 150 jeans qu'on avait vendus en 24 heures, alors qu'on s'attendait à les vendre en plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc ça a été le premier demi-pas.
Et ça vous a encouragé, vous avez dit waouh, quand même, il y a un truc là et peut-être qu'on devrait en faire plus.
Ouais, tout à fait. On s'est dit, on a une manière finalement d'aborder l'événement, de le raconter, de l'expliquer, qu'il n'y a finalement pas tant que ça ailleurs. Et là, on tient quelque chose.
Ouais, et donc les chiffres que vous partagez à l'époque en 2012, c'est 4000 visiteurs par jour pour Bonne Gueule et c'était tout récent parce que en fait Geoffrey avait travaillé sur le SEO et avant qu'il arrive, je crois, c'était un an et demi avant, donc en 2000, il arrivait quoi, mi-2010 hein.
J'ai rencontré Geoffrey en janvier 2010, on a bossé ensemble début 2011.
Voilà, et donc avant ça, donc 2010, Bonne Gueule c'était 600 visites par jour.
Ouais.
Geoffrey arrive, bam, ça passe à 4000 visites par jour.
Tout à fait.
Et vous étiez, mais alors, tout fier de me dire dans l'interview que vous faisiez à peu près un CA de 5000 € par mois.
Oui.
Ce qui paraît, ça paraît tellement drôle aujourd'hui, tu vois.
Ouais, parce c'est vrai.
Ça paraît, et moi, je vous ai dit à l'époque, waouh, c'est extraordinaire et tout ça, parce que 5 000 par mois, donc ça fait 60 000 par an. Hein,
ouais, tout à fait.
Et tu vois, c'est tellement intéressant. Donc, 6 ans plus tard, on va aller directement dans le vif du sujet en termes de trafic, en termes de chiffres. Vous en êtes
alors, je pense que cette année, on va avoir plus de 4 millions de lecteurs. Ça, c'est une évidence.
Ok, sur l'année complète donc.
Ouais, mais alors pour le coup, tu sais, en tant que bon infopreneur, on t'apprend très tôt qu'il faut déléguer.
Ouais.
Et pour le coup, tout ce qui est partie data, elle a été très vite déléguée de mon côté. Et chiffre d'affaires, je pense cette année, on va finir aux alentours de 5,5 millions hors taxes.
Waouh, donc alors, le nombre de visites par mois, c'est 330 000?
Ouais, ça doit être peut-être qu'on a un petit peu plus. Je crois qu'il y a des mois, on a tapé le 500 000, il me semble.
Alors qu'avant, vous étiez à 4 000 par jour. 4 000 fois 30.
Ça fait du chemin.
Ça fait 120 000. Donc vous avez multiplié par 3 le trafic, au moins.
Ouais.
Peut-être même plus. Et bah, le chiffre d'affaires, c'est juste démentiel. Donc tu m'as dit 4,5 millions versus
5,5 millions cette année.
5,5 millions versus 60 000. Il y a 6 ans, donc là, attends, il faut calculer, ça fait une augmentation.
Ah, c'est plus le même ordre de grandeur. Mais c'est intéressant parce que les paliers, tu vois.
C'est 91 fois plus.
Ouais, c'est vrai que c'est.
C'est incroyable, vous avez multiplié votre trafic.
C'est la magie du produit physique. Hein.
Ouais.
Moi, je le dis aux infopreneurs, ils veulent pas me croire. Mais...
Alors, bon, par contre, c'est le chiffre d'affaires. Après, le bénéfice, il n'a sans doute pas été multiplié par 91, j'imagine.
Non. Alors le bénéfice, pour le coup, je l'ai pas en tête et je sais pas si je ferai être d'accord pour que j'en parle.
Vous en aviez pas parlé non plus en 2012.
Non. Non. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on est rentable. Hein. Ça, il y a pas de souci.
on fait pas de.
On est à peu près 35 personnes en CDI. Enfin, je crois que cette année même, on aura zéro stagiaire. On a juste quelques alternants. Donc, ouais, on arrive à financer tout ça.
Ouais. Donc en 6 ans et en 2012, vous étiez combien dans l'équipe?
En 2012.
Oui.
On était. Alors 2012, si c'était en novembre, je crois qu'on a pris nos bureaux à la mi-novembre 2012.
Ouais.
On avait chacun stagiaire. Donc on était. Là, on était que Geoffrey et moi. Et quand on a fini 2012, on était 4.
C'est sans doute pour ça qu'on n'a pas parlé d'équipe dans la première interview.
Oui.
Hello, aujourd'hui, vous êtes combien?
Du coup, on est 35. Donc,
wow.
Au siège, je crois qu'on est 17 personnes et le reste, c'est en boutique.
Dans les magasins. Donc à temps complet.
Tout à fait.
Wow, vous êtes vraiment devenu une belle PME.
Ma
là.
Maman, qui est un peu à gauche d'un point de vue politique, est très fière de voir que son fils a créé autant d'emplois. Mmh. Elle a très peur que je leur fasse faire des heures supplémentaires non payées.
Donc, ça fait des discussions animées en famille alors?
Exactement.
Waouh, donc c'est tellement intéressant parce que finalement, il y a tellement peu. Vous êtes parti du monde de l'infoprenariat, ce qui vous donne aujourd'hui un avantage compétitif énorme sur les magasins de vêtements classiques.
Oui.
J'en ai parlé, donc tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études parce que, voilà, je veux dire, bon, allez voir le blog Bonne Gueule, tout simplement. Tous les articles qui sont en magasin, il y a une fiche sur votre blog qui non seulement décrit la composition des vêtements comme un peu partout, mais vous allez bien au-delà parce que vous expliquez pourquoi vous avez choisi ces matériaux,
tout à fait.
Comment vous avez créé, avec qui vous êtes associé, si vous avez fait une association, comment porter avec des conseils vraiment pour assortir, etc., comment entretenir les vêtements, toutes des choses finalement simples mais que les autres magasins ne font pas.
Qui viennent du monde de l'infoprenariat.
Exactement.
Quand tu vends un produit digital, un produit d'information à 1000 euros, il faut justifier le prix. Donc tu dis, dans ce produit, il y a ça, et nous, on a fait pareil pour le vêtement. Et bon, aussi, il y avait une passion du vêtement. Moi, j'aime comprendre comment il est fait, et j'étais très frustré quand j'achetais des vêtements à droite à gauche, que ce n'était pas forcément le cas. Tu achètes une chemise à 150 euros, tu ne sais pas pourquoi elle coûte ce prix-là. Tu ne sais pas d'où vient le tissu, etc. Et moi, je me suis dit, si un jour j'ai une marque, ça ne sera pas comme ça. Mais aujourd'hui, notre discours commence à faire quelques émules et commence à être pris par d'autres marques, justement, notre manière de raconter le vêtement.
Ah, c'est sûr que ça va être copié. Déjà, je trouve qu'ils ont mis beaucoup de temps, vos compétiteurs, à comprendre ce qui se passait. Ça va peut-être venir.
Ouais, mais tu vois, il faut garder un coup d'avance. On avait un marketing qui était très, très descriptif, et ça, on l'a toujours. Et maintenant, nous, on essaie vraiment d'avoir un marketing sincère. Par exemple... Moi, maintenant, dans mes articles, je dis les limites du vêtement. Par exemple, si on vend un vêtement avec un isolant pour pas avoir froid, je vais dire, OK, donc il est isolant à tel point. Par contre, si vous allez faire du ski, ceci, cela, là, ça sera peut-être un peu juste. Donc, j'essaye vraiment d'être de plus en plus sincère dans le vêtement et je sais que de plus en plus de lecteurs sont sensibles à ça. Parce que malheureusement, de ce marketing dérivé de l'infoprenariat où on explique à fond le produit, et on tourne le moindre truc en bénéfice client, et je trouve que ça entraîne quelques dérives. Mmh. Tu vois, c'est à peine si maintenant on ne vend pas des chemises en disant « Regardez, cool, elles ont des boutons, vous pouvez l'ouvrir. »
Ok, mais ça allait peut-être trop loin dans la description des bénéfices. Et
exactement, très premier degré, tu vois. Donc, tout tourne en bénéfice client. Maintenant, je le fais toujours, mais on essaie de le faire de manière plus élégante, on va dire.
D'accord. Donc, ça aussi, c'est une évolution que vous faites dans votre marketing.
Ouais, tout à fait.
Mais donc, d'ailleurs, vos compétiteurs, bon, ils commencent à se réveiller maintenant, mais finalement, le temps qu'ils aient un blog comme le vôtre, ils peuvent se lever tôt quand même. Parce que,
ouais, alors par contre, ils shortcut le. Enfin, en français, je dis comment dire.
Ils font des raccourcis, oui.
Voilà, ils font des raccourcis sur la partie média contenu. Eux, ils essayent directement de. Bah, tu sais, maintenant, avec l'acquisition payante, tu peux tout à fait, via des outils, cibler notre audience.
Ouais.
C'est assez simple, donc ils ciblent directement notre audience et c'est le jeu.
Plus ou moins efficacement, ouais. Les gens qui vous suivent sur Facebook, etc.
Voilà, plus ou moins efficacement et c'est le jeu, quoi. Et nous, on a…
Mais n'empêche que vous avez une source de trafic gratuite qui crée, non seulement qui est une super source de lead pour vous, mais aussi une super source d'autorité.
Voilà, exactement. Le média, nous, reste toujours au cœur de l'acquisition parce que ça éduque vraiment tous nos lecteurs. Et après, effectivement, d'autres marques capitalisent sur le fait qu'elles ont une audience éduquée qui vienne à elles. Mais ouais, nous, le but, là, la stratégie, par contre, pour le coup, elle n'a pas changé. C'est toujours le média qui convertit, cette passion qu'on a pour les contenus de qualité, pour l'explication, pour la pédagogie. C'est toujours au cœur de notre parcours client, finalement. Et c'est même la première étape. C'est-à-dire que je dis toujours, il faut que la première étape où le client tombe sur bonne gueule, on l'aide sur un problème qu'il peut avoir avec le vêtement. Pour un infopreneur, c'est une évidence même, mais je t'assure que quand tu commences à engager une équipe, à embaucher des mecs qui viennent d'horizons très différents, ils ne sont pas du tout sensibles à cette culture de l'infoprenariat, donc il faut les former à ça.
Mmh. Oui, exactement. Donc c'est ce qui fait votre force par rapport à vos compétiteurs, mais aussi ce qui est finalement tellement fascinant, c'est que il n'y a quasiment aucun infopreneur qui s'aventure dans le monde du business physique. Vous êtes quasiment les seuls en français qui…
Parce que ça fait peur. Tim Ferriss, il dit toujours qu'il ne faut pas avoir de stock, que les produits d'information, c'est cool parce que tu n'as pas de stock, tu ne t'emmerdes pas pour les retours, l'expédition, la logistique, et il a raison. Et de l'autre côté, si tu veux chercher beaucoup de croissance, et pour le coup, le produit physique, tu ne peux pas vendre deux fois la formation Blogueur Pro à quelqu'un.
Non.
Par contre, tu peux lui vendre deux chemises, ça c'est possible.
C'est vrai.
Mais ça rentre, tu rentres dans des logiques qui sont tout autres, parce qu'il faut gérer de la marge, du BFR, de l'expédition, du développement de produits, etc., etc. Mais moi, en tant que passionné, je vois les plus belles matières au monde, des matières japonaises, italiennes. Il y a une fierté quand le prototype il arrive, on l'essaie, ça tombe trop bien. Enfin, il y a un émerveillement aussi qui est là et que j'espère transmettre à nos clients.
Je pense que vous le faites bien. Hein.
Ouais.
Et oui, on voit bien la passion quand on parle d'ailleurs. Mais bon, c'est vrai que vous êtes toujours dans un domaine où finalement le pont entre information et produit était presque évident, même si beaucoup ont choisi de pas explorer ce…
Mais attends, mais tu dis ça, mais en 6 ans, évidemment, on a rencontré beaucoup de grands groupes et de grandes boîtes, de maisons de luxe. Mmh. Et eux, ils n'arrêtent pas de dire qu'il faut fusionner le contenu et le marketing, finalement. Et autant il y a beaucoup d'infopreneurs qui ne l'ont pas fait, il y a autant de grandes boîtes qui veulent le faire, mais du fait de leur culture d'entreprise, elles ne peuvent pas le faire. Tu vois, elles auront… Parce que de suite, quand elles vont mettre en place ce genre de projet, ça va être des usines à gaz énormes. Mais nous, on a entendu, ça fait 5 ans qu'on dit oui, il faut fusionner le contenu et le commerce, quoi. Mm-hmm. C'est vraiment l'objectif de… Et d'ailleurs, des grands e-shops de vêtements commencent péniblement à essayer de faire des parties éditoriales, de shooter des vidéos, etc. Mais c'est encore très timide.
C'est pas dans leur culture.
Ils n'ont pas encore
Ils n'ont pas compris vraiment, encore vraiment comment faire et l'intérêt.
Exactement. Pour eux, ils le voient dans une logique de branding, ce qui est bien, mais pas dans une logique où on aide le mec à résoudre un problème. Mmh. Et on lui apprend quelque chose. Il y a plus une logique de magazine derrière, mais pas de contenu comme moi je le conçois.
Pas de résolution de problème.
Pas de résolution de problème, pas de pédagogie, pas d'éducation, parce qu'ils pensent tous que si tu fais un article de plus de 1000 mots, le mec il va trouver ça chiant, il va pas lire, il va dire…
Ils ont tellement tort. C'est fou, hein.
Et je peux dire que c'est pas faux de leur avoir expliqué, hein. Parce que j'ai rencontré beaucoup de marques justement en 6 ans qui nous m'ont demandé, mais c'est quoi la recette secrète de bonne gueule? Et j'ai dit, mais la recette, elle a rien de secrète. À chaque fois, je lui explique. Et comme d'habitude, à chaque fois, la personne ne fait rien de ce que je lui explique. Donc, et c'est comme ça.
Non, c'est pas grave. Continuer à tout disrupter et puis un jour…
On essaye.
On essaye. Donc là, ça vous fait combien de magasins physiques, là? 5, c'est ça?
Alors 4, et si tout se passe bien avec Lille, 5.
Alors, on va parler un peu de cette transition parce que d'abord, vous avez commencé à faire une co-création avec un créateur.
Ouais, on en a fait plusieurs.
Plusieurs. C'était une excellente manière d'entrer dans la scène.
Ouais, mais moi, c'est ce que je conseille aux infopreneurs. Si mettez un pied dans le physique, faites une collab avec quelqu'un. Par exemple, la photo, Laurent, il faut qu'il fasse une collab avec la bagagerie pour de la photo, avec une marque comme ça. C'est ça qu'il faut faire. C'est un très bon moyen. Alors, je sais que pour les infopreneurs dans la niche Make Money Online, MMO, comme on dit, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Oui, entrepreneuriat, marketing,
voilà, exactement.
Et l'argent, quoi. Ouais.
Je suis sûr que sur de l'objet de voyage, du vêtement de voyage, je suis sûr qu'il y a un petit truc à faire. Il y a toujours un moyen. mais il fait des collabs sur l'objet physique. C'est hyper intéressant, hyper enrichissant.
Intéressant. Donc ça, c'était, vous avez vu que ça marchait bien. Après, vous êtes mis à faire vos propres créations et les vendre à partir de votre site, mais sans magasin physique.
Sans magasin physique. En fait, on s'est dit, bon, les collabs, c'est vrai, c'est cool, ça marche bien. Et tu vois, moi, j'avais cette envie aussi d'avoir notre propre marque, tu vois, et d'essayer de proposer des vêtements à des prix qu'on ne pouvait pas trouver sur le marché. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas d'intermédiaire. Tu vois, d'habitude, une marque, elle vend en plusieurs boutiques qui revendent au… Ça serait un peu…
Au distributeur.
Voilà, ça serait un peu le rôle des affiliés dans l'infoprenariat, tu vois. Mm-hmm. Tu vends le produit à d'autres qui le revendent à d'autres. Mais tu vois, il y a un intermédiaire. Et du coup, nous, on ne voulait pas d'intermédiaire. C'est-à-dire que le but, ce n'était pas de revendre à d'autres boutiques multimarques. Le but, c'était de vendre directement à notre audience et d'être du coup forcément plus compétitif. Et de proposer des produits, tu vois, des… Par exemple, nous, un de nos best-sellers, c'est notre chemise en chambray japonais. Donc, c'est un tissu en coton qui vient du Japon. Mmh. On la vend 130 €. Et alors que chez plein d'autres marques, elle est à 150, voire 200, 250 €. Donc, c'est à partir de là qu'on a réussi à avoir un début de traction avec la marque de vêtements.
Et comment vous faisiez pour gérer vos stocks à l'époque ? C'est vous qui faisiez ça ou vous passiez par…
Non, alors pendant longtemps, on l'a internalisé. On avait nos bureaux dans le sentier, donc il y avait beaucoup de cartons dans nos bureaux. Je ne sais pas si c'était déjà venu d'ailleurs dans nos bureaux déjeuneurs.
Non, je ne suis jamais venu, ouais.
Donc comment on faisait ? Ben, il y avait Florian qu'on avait recruté pour l'expérience client, la logistique qui s'occupait de tout ça. Donc il avait un petit stagiaire avec lui. Et puis voilà, quoi, il préparait tous les colis. Mais moi, avec Geoffroy, on a passé quelques week-ends à préparer les colis Quand tu vends 300 paires de chaussures en un week-end, il faut aller au bureau, les mettre dans des boîtes, mettre du scotch, etc. Et ça faisait partie de l'aventure, tu vois. On se disait, dans 10 ans, on sera hyper nostalgique de tous ces moments-là qu'on a passé à mettre nous-mêmes les vêtements dans les emballages.
Alors, t'es nostalgique, là ?
Un petit peu, ouais. C'était le fun. Il y avait une espèce d'ébullition, d'énergie créative. C'était la fast life, quoi. Tu vois, ça allait vite. Ça allait vite, on avait tous les mains dans le cambouis, c'était vraiment sympa, quoi. C'était les premières années de bonne gueule. Et bon, forcément, aujourd'hui, avec le volume de commandes qu'on a, on a un logisticien depuis un moment.
D'accord.
Et ça nous permet du coup de se concentrer plus sur l'essentiel.
D'accord. Donc, tout ça, vous avez géré en interne, etc. Mais quand est-ce que vous vous êtes dit, OK, maintenant, il est temps de passer à l'étape suivante, la boutique physique, parce que ça encore, c'est une grosse étape.
Alors ça, c'est presque par hasard. L'histoire, elle est simple. On louait des bureaux avec une autre boîte qui s'appelle Exception, que je salue, qui est un e-shop multimarque. Et ils sont partis de nos bureaux parce que c'est ça qu'on disait, ils avaient besoin de bureaux plus grands. Donc nous, on s'est retrouvés avec un grand espace et Geoffrey voulait le relouer à d'autres entreprises. Et Flo, qui était le responsable client, etc., a dit « Attendez les gars, moi j'ai beaucoup de clients qui veulent venir essayer le produit, beaucoup de retours et tout, qui chaque fois me demandent « Ouais, je suis sur Paris, est-ce que je peux venir essayer le produit dans vos bureaux ?» Parce que plutôt que de m'embêter avec les colis, etc. Donc Geoffrey, on a dit « Bon, ok, vas-y, on va faire un test, on va ouvrir les bureaux le week-end, on va transformer ça en showroom. Mm-hmm. » Et les soirs. Et mine de rien, en ouvrant juste les soirs et les week-ends, alors qu'on n'était pas du tout dans une rue passante, on s'est aperçu qu'on était tout à fait rentable. Qu'on était le chiffre d'affaires dégagé, on faisait à peu près 20 000 euros en physique, quoi. Donc ce chiffre d'affaires-là pouvait suffire.
Par mois.
Ouais. Ce chiffre d'affaires-là pouvait suffire à financer une petite boutique.
Donc vous avez fait une petite expérience sur le terrain.
Exactement.
Qui était.
Ça, c'est le côté start-upper de Geoffrey, très test and learn, quoi.
Voilà, lean start-up.
Voilà, exactement.
C'est super méthode, ouais.
Voilà, d'accord. Donc on a testé un showroom physique, ça a marché, on s'est aperçu qu'on pouvait être largement rentable. On ouvre une petite boutique avec un risque mesuré, ça marche très bien. Du coup, on en ouvre une plus grosse et on a ouvert en face de notre petite boutique. Maintenant, donc nos deux boutiques sont au 14 et au 15 rue Comines. Elles sont l'une en face de l'autre.
Oui, donc je suis allé voir d'ailleurs votre boutique à Paris il y a quelques temps, il y a peut-être 2 ans, un truc comme
ça. Ouais, c'était la petite quand on avait, c'était le 14, numéro
d'accord,
14.
Et maintenant vous avez une plus grande.
Qui est juste en face.
D'accord, donc vous avez encore les deux, voilà. C'est facile de passer de l'un à l'autre.
Ouais, exactement, parce qu'on trouvait que c'était… Franchement, avoir deux boutiques de la même marque dans la même rue, au niveau branding, au niveau du message, il y a un truc qui est hyper… qui est particulier, qui se passe. Et évidemment, on était… si on l'a fait, c'est aussi parce qu'on était tout à fait rentable et ça a été un super move parce que le chiffre d'affaires de la boutique a vraiment décollé grâce à ça.
Waouh.
Mais c'est un autre métier qu'il a fallu apprendre, hein. On appelle ça, c'est le retail. Comment est-ce qu'on fait pour que les gens viennent en boutique, pour qu'ils passent un bon moment et qu'ils soient contents de faire un achat, et comment est-ce qu'ils découvrent la marque? Et c'est vraiment des problématiques qui sont plus que jamais d'actualité chez Bonne Gueule. Et c'est hyper intéressant.
Et ça vous a vraiment permis de toucher une nouvelle clientèle que le blog ne permettait pas?
Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ça a permis de. Bah, en fait, tu avais des personnes qui, mine de rien, on vend des vêtements, tu avais des personnes qui voulaient essayer, tu avais des personnes qui n'étaient pas encore tout à fait à l'aise avec le fait d'acheter en ligne. Donc, ça a permis vraiment de faire venir des gens en boutique et de faire de nouveaux clients fans, etc. Puis, on était dans le marais, donc c'était quand même une rue un petit peu passante, on va dire. Donc, là aussi, on a pu capter un super trafic. Et puis, pour les gens, c'est devenu un bon moment de venir dans notre boutique. Puis, les paniers sont plus élevés, tu as moins de retours. Donc, on a toujours ce mythe un peu de l'e-shop qui coûte rien par rapport à une boutique physique, mais c'est pas vrai.
Parce qu'il y a plus de retours.
Tu as plus de retours, les paniers sont plus élevés parce que le mec il vient pour une chemise et puis il dit: ah, mais attendez, mais je n'avais pas vu que vous aviez cette veste avec. Bah, je vous en prie, essayez-la. Ouais, t'as moins de retours, le client il essaye en vrai, les paniers sont plus élevés. Donc il ne faut pas jeter le retail physique aux orties. Quoi.
D'accord, donc même encore aujourd'hui, ça a de l'avenir.
Bien sûr, alors effectivement, parce que. Nous, on est passé du métier d'infopreneur et je me suis pris en pleine face le métier de start-upper. Donc, tout ce qui est croissance, etc., nouvelle expérience, le monde des start-up qui lèvent des fonds, etc., qu'est-ce qu'elles font de tout cet argent, comment elles gèrent leur croissance, comment elles se structurent, comment elles construisent leur équipe, c'est vraiment passionnant aussi. Et effectivement, aujourd'hui, dans les marques de vêtements un peu innovantes, comme il y en a beaucoup aux États-Unis, un petit peu moins en France, mais beaucoup aux États-Unis, si effectivement au début elles étaient 100% digitales, aujourd'hui elles recommencent à apprécier le retail physique.
Alors quand même, quand on discutait juste avant cette interview, tu m'as dit: ah, ça manque un petit peu quand même quand j'étais que infopreneur. Pourquoi c'est un peu trop de contraintes à gérer tout ce monde physique?
Alors je dirais pas ça, mais moi tu vois, parce que j'ai lancé un programme à 150€ en ligne, une formation en ligne, un produit un peu star, et j'aimais bien moi faire mon petit PowerPoint, allumer ScreenFlow, enfin qui est le logiciel pour enregistrer l'écran, parler devant le micro et dire: bon ben voilà, un manteau, il faut faire ça, et puis vous pouvez le choisir comme ça, regardez telle finition. J'aime toujours autant transmettre et créer du contenu, en fait, c'est ça. Et forcément, mon métier d'infopreneur qui est devenu un métier d'entrepreneur, j'aimerais bien en trouver plus de temps pour créer à nouveau et prendre le temps de faire de beaux articles. C'est vraiment un truc qui me manque un petit peu.
Ah oui, donc tu n'as plus le temps d'écrire aujourd'hui pour ton blog?
Si, j'écris toujours, je fais des vidéos YouTube et j'aimerais bien quand même avoir encore un tout petit peu plus de temps pour développer des nouveaux concepts et les traduire en articles.
D'accord, donc vous avez quand même une équipe de rédacteurs?
Ouais, on a un pôle éditorial, on a un rédacteur en chef, c'est un ancien de chez LCI d'ailleurs, de chez Metro News. On a un community manager, on a Nicolo qui est un peu notre expert en mode masculin, qui repère beaucoup de marques. On a Jordan et Michel qui sont nos deux rédacteurs aussi.
Waouh, ok, ouais, donc vous avez quand même une bonne équipe éditoriale.
Ouais, qu'on a un peu musclé récemment, parce qu'avant on était un peu sous-staffé, je trouve, par rapport à ce qu'on voulait faire.
Et donc aujourd'hui, la partie infoprenariat, vous vendez toujours des produits comme des livres, des formations, etc.
On a juste le livre maintenant.
D'accord. Donc
Et je pense que aujourd'hui, nous, le contenu, le temps passé à créer un produit digital, finalement, il vaudrait mieux qu'on le mette gratuitement pour attirer toujours plus de lecteurs et les fidéliser encore plus et être encore plus présent dans leur esprit. Mais tu vois, au fond de moi, j'ai toujours cette petite envie, parce que le frisson du lancement du produit d'information, il est particulier aussi.
C'est clair.
Et j'aimerais bien le retrouver.
Ah, mais c'est une expérience unique, hein.
Exactement.
Un tel mélange de stress, d'excitation, de soulagement quand tu.
Tu vois, refaire les trois petites vidéos de vente, refaire le script et tout, j'aimerais bien me replonger dedans.
Ok. Mais bon, donc pour l'instant, c'est devenu un revenu complètement annexe.
Exactement. Aujourd'hui, nous, 99,9% du chiffre d'affaires, c'est la marque de vêtements. Ça, c'est clair. Okay. Et c'est super aussi. Enfin, moi, c'est une vraie passion que j'ai, le vêtement, depuis presque 11 ans. Et c'est super aussi de voir que tu as des gens que je croise dans la rue, ils sont habillés en bonne gueule, ils ont le manteau bonne gueule. Ils me reconnaissent, ils me disent: ah, salut Benoît, j'adore ce que tu fais. Bah, tiens, regarde, j'ai acheté votre chemise, je suis super content. Enfin, ça n'a pas de prix non plus. Ça, c'est merveilleux.
Non, c'est clair. Et donc, dans cette interview de 2012, vous partagez que vous veniez juste, ou vous étiez sur le point d'acheter un site en anglais.
Ah oui.
Et que vous étiez vraiment super excité à l'idée de vous lancer à la conquête du marché anglophone. Alors, c'est devenu quoi ça?
Alors, effectivement, on l'a acheté. On a fait le voyage d'affaires en 2013 à New York. C'était vraiment marrant, ce truc, parce qu'il appartenait à deux Coréens.
Ouais.
Et donc, j'ai fait mon premier voyage d'affaires grâce à Bonne Gueule en 2013. Donc, on a fait un super resto, on a acheté le site. Combien on l'a acheté? C'était 30 000 ou 50 000 dollars, je m'en souviens plus très bien. Mmh. Et par contre, du coup, on l'a effectivement acheté ce site, mais en fait, on avait tellement à faire en France, la croissance était tellement telle que on s'est dit, putain, là, on est en train de s'éparpiller, quoi. Mmh. On est en train de s'éparpiller, donc autant revendre le site. Et la ressource qu'on avait en France sur le site américain, bah, autant la mettre sur le marché français qui même encore aujourd'hui nous demande encore, on a encore tellement, tellement de choses à faire. Donc c'était une erreur dans le sens où on s'est éparpillé. Mmh. On a revendu le site, je crois qu'on a un petit peu perdu d'argent, mais c'était franchement fun, ce voyage d'affaires à New York, ça appartenait à deux Coréens, donc c'était assez marrant.
Vous avez pu le barrer de votre to-do list, faire un voyage d'affaires à New York, racheter une boîte américaine.
Vous avez été dans un super resto, je me souviens, dans un très beau resto à New York, c'était génial.
Mmh. Donc, ok, donc finalement, ce que ton analyse, c'est celle de beaucoup d'infopreneurs hein, qui, à un moment, essaient un petit peu l'aventure en anglais, puis laissent tomber parce qu'il y a tellement de choses à faire encore en français.
Ouais.
Finalement, le seul infopreneur francophone que je connaisse qui est vraiment réussi en anglais, c'est Alexandre Cormon. Je ne sais pas si tu connais.
Ouais, si.
Lui, il marche très bien en anglais.
Il y a, comment il s'appelle, Grégory Lagrange, lui, qui dit qu'il a un gros site en anglais sur le jardinage. Mmh. Donc, là aussi, c'est un.
Il y en a quelques-uns, mais c'est clairement pas. C'est plutôt l'exception qui confirme la règle.
Ouais, il y a des bons acteurs quand même en général hein, sur le marché anglophone.
C'est clair, c'est clair. Après, tu vois Alexandre Cormon dans Love Coach avec la petite French Touch. Clairement, ça le distingue immédiatement.
Effectivement.
Mais c'est, tu peux pas utiliser la French Touch dans tous les domaines. Toi, dans ton domaine, quand même, tu pourrais essayer. Hein.
Bah, l'internationalisation, ça fait. Maintenant, ça fait plusieurs années qu'on y pense, mais on est vraiment.
Encore tellement de choses à faire.
Voilà, en France, on est très très occupé, quoi. Là encore, on est repassé dans une phase d'hyper croissance, alors que on n'a pas fait de gros trucs en communication, mais simplement, y a un moment où la marque vient de faire boule de neige, je crois, qui est tout à fait naturel. Et c'est vrai que là, comme je t'ai dit, on est repassé à je crois plus 60% de croissance d'une année à l'autre. Et donc, tu vois, il faut la gérer toute cette croissance. Il faut financer les stocks, il faut bien les anticiper, etc. Et là, il faut vraiment pas qu'on s'éparpille.
Et dans cette interview de 2012, vous disiez que vous aviez un rythme de travail assez tranquille, pas non plus en mode semaine de 4 heures, clairement, mais plutôt tranquille.
Alors ça a bien changé.
Ça a bien changé.
Ouais, on a. Là, par contre, pour le coup, par semaine, je dois faire au moins 50 heures de travail, je pense.
Quand même. Donc là, tu fais partie des entrepreneurs qui travaillent beaucoup.
Ouais, là, je suis un vrai entrepreneur, pas semaine de 4 heures.
D'accord.
Mais c'était tellement enrichissant, j'ai rencontré tellement de gens, tellement de. Parce que le fait de rester à Paris, mine de rien, on a pu se faire un super réseau, quoi, de gens qui étaient bien plus expérimentés que nous. Et j'ai tellement appris, puis j'ai tellement pu rencontrer de créateurs. Et moi, je suis très respectueux, admiratif des créateurs, des créatifs. Et ouais, non, ça a été beaucoup de rencontres, beaucoup de travail aussi. Mais c'était l'aventure, quoi. Je crois que tu as une expression, c'est le feu sacré.
Ouais, le feu sacré.
On avait le feu sacré, tu vois.
Ouais, vous l'avez toujours, là, non?
Là, on a toujours, et plus que jamais. Ouais, là, franchement, je pense que. Je dois quitter le bureau vers entre 19h30 et 20h, parfois 20h30, 21h, mais c'est plus rare maintenant. Mais ouais, c'est sûr qu'on a bien bossé. Et je regrette absolument pas. J'ai pas eu j'ai eu l'impression d'avoir sacrifié ma vie ou d'avoir été prisonnier de mon entreprise ou quoi que ce soit, pas une seconde.
Intéressant. Et tu travailles les week-ends ou pas?
Ça peut m'arriver, mais c'est. Je crois que c'est ce que tu dis, c'est un moment, mais qu'est-ce qu'il y a du travail? Parce que aller sur le week-end, aller sur des forums pour voir un peu ce qu'ils disent sur le vêtement, moi, c'est un plaisir. Je ne considère pas ça comme du travail. Mmh. Aller dans des boutiques, discuter avec des créateurs, essayer des vêtements, pareil, pour moi, c'est un plaisir. Je ne le compte pas comme c'est pas du travail. Mais ouais, on travaille un peu les week-ends. Et de toute façon, quand tu as 35 personnes, tu es forcément sur le feu, il y a forcément beaucoup de choses à gérer. Il faut le faire, mais pour moi, comment il s'appelle le mec qui a écrit ce livre là, The Immis Revisité?
Michael Gerber.
Voilà, Michael Gerber qui a 10 ans avec son livre, qui a bien.
Il y a 20 ans même.
Il y a 20 ans, qui a prévenu tous les futurs infopreneurs, ne soyez pas prisonniers de votre entreprise, faites des process, etc. Mm-hmm. Moi, je me suis jamais senti dans ce cas-là, vraiment.
Intéressant.
J'ai peut-être moins de liberté, de flexibilité en termes de style de vie, tu vois, je peux pas voyager 6 mois par an. Mm-hmm. Et je suis très content de ce que je vis en ce moment, vraiment. C'est très enrichissant, quoi.
Et tu mets quand même en place des process dans ton entreprise?
T'es obligé.
Ouais,
vraiment. Et l'enjeu, non seulement c'est plus de mettre des process, mais c'est bien de les organiser, c'est de les optimiser, c'est que tout le monde soit sensible à cette culture du process, au fait de les améliorer, de les documenter aussi. Il y a toute cette notion de knowledge management, on appelle ça, de toute la, parce qu'en 6 ans d'entrepreneuriat, tu as une connaissance un peu diffuse qui se crée à l'intérieur de Bonne Gueule. Et qu'est-ce que, comment tu la formalises? Comment est-ce que tu permets aux gens d'y accéder? Et c'est des problématiques. Moi, en tant que grand amateur de contenu, je trouve ça passionnant, quoi. Comment est-ce que tu fais une charte éditoriale? Comment est-ce que tu la nourris? Comment est-ce que tu la rends accessible à toute l'entreprise? C'est hyper intéressant. Donc ouais, on entend toutes ces problématiques de boîte classique finalement.
Et est-ce que tu prends des semaines de vacances quand même dans l'année?
Oui. Ben là, j'étais au Boom Festival, qui est un peu le Burning Man façon version Europe au Portugal. Mm-hmm. J'étais une semaine à Tours. J'en prends moins qu'avant.
Donc, tu as à peu près combien de semaines par an?
Alors, attends, là, je dois être…
Bonne question.
Entre 3 et 5 semaines, mais en 3-4, je dirais.
Bon, ça va quand même.
Ouais, non, franchement,
ça va. Tu prends le temps, tout ça.
Ça va. Et puis, je sais que si jamais j'ai un gros pétage de câble, je sais qu'une après-midi, je peux dire, bon, les gars, je bosse de chez moi, là, j'ai besoin de respirer. Enfin, c'est pas un souci.
Oui, tu peux pas. T'as pas des horaires de bureau fixe. T'as quand même une certaine flexibilité.
Même s'il faut être présent, quand même. Pour les équipes, c'est hyper important. Mais je suis pas l'entrepreneur nomade, ça c'est clair. Et ça me dérange pas de ne pas l'être.
Oui, alors justement, parce que déjà en 2012, vous disiez que vous voyagez pas beaucoup, toi et Geoffrey.
Ouais.
C'est toujours le cas finalement aujourd'hui.
Alors non, parce que on a beaucoup de fabricants dans toute l'Europe et on est amené à voyager un petit peu.
Ah d'accord.
Et en mars, on a fait 10 jours au Japon pour rencontrer nos fabricants et c'était, pour moi, c'était un rêve.
Super, quoi. Ouais, c'est génial.
Et là, on est en train de faire une web série qui documente ça, donc c'était.
Ah oui, vous en avez fait un vlog.
Ouais, vlog. Mais qui n'est pas encore terminé. Là, il y a 2 épisodes sur 4, voire 5 qui vont être. Et ouais, donc ça, c'est.
Et connaissant les Japonais, ils ont dû bien vous accueillir.
Ah, c'était génial.
C'est presque c'est embarrassant déjà... tellement ils sont généreux.
Mais justement, ça, c'est génial parce que tu vois, ils ont un sens du retail, du service qui est incroyable là-bas. Et moi, j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner. Il y a plein de bonnes idées à prendre, à ramener en France, dans les boutiques. Enfin, c'est vraiment génial. Donc. C'est vrai que je peux pas voyager un mois au Brésil ou je sais pas où. Et tu vois, on peut voyager pendant 2 jours au Japon, rencontrer nos fabricants, aller à Tokyo et c'est génial aussi.
Donc tu joins l'utile et l'agréable.
Tout à fait.
Et c'est payé par la boîte puisque c'est un voyage business.
Ah oui, bah là complètement. Je peux te dire pendant 2 jours pour le coup, autant c'était le kiff, mais j'ai pas une seule fois l'impression d'avoir été en vacances. Hein. pas un seul instant, c'était hyper intense. Et c'était génial.
Dans l'interview de 2012, vous dites que vous utilisez Aweber comme logiciel autorépondeur. Est-ce que vous avez changé un peu d'outil aujourd'hui?
Oui, parce qu'Aweber, ils n'ont pas su… ça, c'est le.
En 2012, ils étaient très bien.
Ouais,
mais aujourd'hui, les gars, attention, c'est des dinosaures.
La gestion des c'était pour les accents. C'était...
Non, mais c'était…
C'est exemple type d'une boîte qui était leader et
qui n'a pas su évoluer.
Qui s'est encroûtée, tout s'est calcifié, les articles. Moi, j'aime bien comparer une boîte à un corps humain. Geoffrey, il aime bien comparer une boîte à une machine, mais moi, c'est un corps humain. Et c'est vraiment ça serait vraiment le corps humain qui n'aurait pas été assez stimulé, pas assez fait de sport et qui s'est vraiment s'est atrophié. Et aujourd'hui, on est sur MailChimp.
D'accord. Donc, ouais, je trouve que MailChimp est plus…
Ouais, mais je crois même qu'on a… On a un autre outil, il me semble. Simon, notre directeur de la technique, pense à changer d'outil parce qu'à Weber, on est limité sur certains points.
MailChimp, tu veux dire?
Oui, MailChimp. Mais à Weber, ouais, on l'a changé depuis bien longtemps parce que c'était… Comme tu dis, c'est devenu des dinosaures et c'est dommage. Ah,
c'est incroyable, ouais.
Ils avaient plein de trucs à faire sur le.
Ah, mais là, ils sont largués.
Même avec tous ces. Le Messenger, tout ce que. Je crois que maintenant, il y en a même qui font du marketing via WhatsApp. Ils avaient plein de trucs à faire et ils ont fallu batailler pour qu'ils prennent en charge tous les accents, quoi. Enfin, c'était.
Et ils ont juste mis en place que récemment le double opt-in dans d'autres langues, notamment le français. C'est incroyable. Non, mais. Et pendant ce temps-là, tu as des outils de malade qui ont été créés, donc tu as ActiveCampaign, Drip et tous ces trucs-là qui ont amené un FusionSoft dans un autorépondeur qui marche vraiment.
Exactement.
Contrairement à FusionSoft. Et enfin, donc là, on parle un peu en chinois pour les gens qui ne connaissent pas, mais voilà, les outils ont bien évolué, vous avez aussi suivi ça.
Ouais, complètement. Et même tout ce qui est YouTube, etc. Parce qu'en 2012, il y a 6 ans, c'était loin d'être développé comme c'est là aujourd'hui.
Oui, bah d'ailleurs, vous avez été parmi ceux qui m'ont inspiré. Alors, c'est bien parce que je crois que je t'ai inspiré à démarrer le blog il y a quelques années.
Moi, je t'ai découvert. En 2008, mais ouais. Ça va faire 10 ans d'ailleurs, parce que je me souviens, j'ai découvert des livres pour changer de vie en 2000, à ma rentrée d'école de commerce, septembre-octobre 2008. Mm-hmm. Donc ça fait 10 ans que je connais tes écrits. Et ce qui est incroyable, c'est que jamais je me serais imaginé 10 ans plus tard être interviewé sur ton canapé, quoi.
On avait même, attention, parce qu'on avait parlé de même faire ça dans la baignoire pour rigoler. Donc peut-être on sera pour la prochaine. On évolue après dans l'intimité.
Ouais, je t'ai découvert il y a 10 ans et c'est vrai que c'est. Ouais, et je suis tellement reconnaissant parce que mine de rien, tu m'as éduqué à tellement de concepts qu'il y a 10 ans plus tard, j'y pense encore des trucs très simples aujourd'hui, mais le fait de déléguer, la Tim Ferriss que j'ai découvert. Enfin, moi j'ai des gens qui découvrent Tim Ferriss comme maintenant, qui disent mais moi c'est génial. Et je t'ai dit mais attends, moi ça fait 10 ans que je.
Mais c'est clair. Là j'étais à un événement ce week-end où j'étais speaker et j'ai posé la question pendant ma conférence qui ici a lu la semaine de 4 heures et sur, ouais, allez, 400 personnes, il y a la moitié des gens qui ont levé la main. Ce qui est déjà pas mal. Mais je leur ai dit, ouais, c'est dingue quand même, 10 ans après, il y a encore des gens qui ne connaissent pas. Quoi.
Moi, ça m'a beaucoup, parce que Tim Ferriss, c'est une introduction à l'infoprenariat, pour faire simple.
Oui, et puis à l'automatisation, à une autre vision de l'entrepreneuriat. Et on peut ne pas être d'accord, mais il y a toujours des choses à apprendre. C'est extrêmement nourrissant comme pensée.
Exactement, surtout quand tu commences ta boîte avec ça, ça t'amène déjà, tu as déjà les bonnes bases sur le fait d'automatiser, de déléguer, pas être prisonnier de sa boîte, mettre les process, ne pas hésiter à se faire assister. Enfin, tu vois, et je te remercierai jamais assez de tout ce que tu as apporté au Benoît pré-Bonne Gueule, avant Bonne Gueule, parce que ça, j'ai découvert tellement de choses via ton site qui m'ont beaucoup servi pour la suite.
Merci, ça me fait plaisir. Mais justement, je voulais dire que voilà, je t'ai inspiré il y a longtemps, mais que vous, toi et toute l'équipe de Bogan, vous m'avez inspiré notamment à un peu monter la qualité des vidéos YouTube. Vous avez été parmi les premiers à faire des vidéos qui étaient un peu scripté, un peu chiadé, un peu haut de gamme. Quoi.
On a encore beaucoup de progrès à faire là-dessus, effectivement, mais nous, tu vois, quand tu as une marque de vêtements, tu es obligé d'entrer dans une logique de branding. Donc, tu es obligé de travailler ton image. Hein. T'es plus, le 80-20, ça marche plus pas aussi bien que…
Tiens, intéressant. Okay. Tu veux dire que là, tu vas plutôt aller chercher la perfection dans le détail.
Tu es obligé de passer 20% de temps en plus pour chercher 5% en plus du résultat final. Mais
Et tu penses que, parce que tu penses que sur le long terme, ça rapporte plus que 5%.
C'est de la pensée de l'infoprenariat. Si tu regardes avec ces lunettes du ROI très chiffré quantitatif, c'est un non-sens et ça va le rester. Par contre, il y a un moment, il faut créer de la désirabilité, il faut créer une image, il faut créer un branding, il faut créer une personnalité. Et tu es obligé quand même de passer du temps sur une belle image, sur des beaux contenus. Ne serait-ce que pour… Mais c'est des choses qui sont, tu vois, très diffuses. Vraiment, ne serait-ce que pour avoir la bonne place dans l'esprit de ton client. Donc, tu es obligé de passer un peu plus de temps là-dessus et de moins fonctionner en mode à l'arrache. Même si effectivement, Jason, qui est notre directeur artistique, et Luc, qui est un peu notre vidéaste, fonctionnent vraiment à l'économie. Quoi. Ils font vraiment de la magie avec trois bouts de ficelle. Mais clairement, c'est un aspect sur lequel il faut vraiment être beaucoup plus précautionneux. Et par contre, sur le contenu, la création de contenu, je pense que le 80-20 ne s'applique pas toujours, qu'à un moment, c'était le mec de White But Why qui disait que plus tu vas passer d'extra mile sur ton contenu, plus tu augmentes le potentiel de viralité.
C'est vrai que bon, après White But Why, c'est un exemple intéressant. Donc, c'est un blog dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne qui, en gros, l'auteur publie tous les 3 mois et avec un rythme extrêmement régulier. Mais par contre, chaque article, c'est un bijou. C'est presque un livre en fait.
Ouais, il fait des 20 000 mots, 30 000 mots tranquille. Hein. Ouais. Donc, il est chaud. Hein.
Et c'est vrai que bon, c'est un blog extrêmement populaire. Mais par contre, tu vois, moi, j'ai été voir là tout le premier semestre 2018, il n'a rien publié.
Non, il n'a rien publié.
Et ça, c'est un peu décevant. Donc, tu vois, après, il faut voir. Tu vois, c'est un peu aussi.
Au moins, il crée d'attente.
Tu tombes dans le perfectionnisme, tu tombes là-dedans. Quoi,
effectivement, et il crée de l'attente. Ouais. Et justement, c'est intéressant de voir quelqu'un qui fait ce truc-là à l'extrême et de voir justement les points forts ou pas. Mais moi, je sais que mes articles, ils n'ont jamais autant marché quand j'ai passé l'heure supplémentaire et que de 5 heures de rédaction, ça se transforme en 20 heures de rédaction. Tu vois, là, on a fait un lancement ce week-end. J'ai fait un article de 5000 mots, ça m'a pris du temps. Hein. Ça m'a pris bien 2 bonnes journées. Et on a vendu.
5000 mots, c'est pas mal, ouais.
Ouais, et on a vendu 350 pièces à 580 €.
Ah, c'est un article qui décrivait le vêtement.
Ouais, on a vendu ça en 48 heures.
Incroyable. Je veux dire, vraiment, allez voir les articles de Bonne Gueule, et notamment les fiches produits hein, qui présentent les vêtements. Vous voyez ça nulle part ailleurs. Enfin, c'est fou, hein. Peut-être un peu quelque part, mais je veux dire, c'est vraiment un exemple tellement intéressant donc de contenu qui est vraiment là pour éduquer. La personne et apporter de la valeur.
Je vais te donner un peu la petite histoire derrière ces fiches produits. Je me suis inspiré de 2 choses.
Vas-y.
La première, c'est effectivement les pages de vente très longues des infopreneurs. Tu vois, qui détaillent tout en long en large en disant plus la page produit est longue, plus le prix sera justifié. Et l'autre source d'inspiration pour moi, ça a été Apple. Tu vois, qui allait jusqu'à faire un paragraphe sur le chanfrein de l'iPhone 5, je crois.
Sur le quoi?
Le chanfrein, le bord, le contour de l'iPhone, sur la lentille, sur le verre utilisé, sur l'aluminium utilisé. Hmm. Et ça a été, ça m'a beaucoup inspiré aussi.
Donc, tu parlais du branding et tu me disais aussi, avant qu'on démarre cette interview, que c'est un petit peu un des défauts des infopreneurs, c'est qu'ils ne se focalisent pas assez sur le branding. Alors, toi, qu'est-ce qui t'a fait le déclic? Parce que donc, tu nous as dit un peu l'intérêt, c'est d'attirer un petit peu, de polir l'image. Mais qu'est-ce qui t'a fait le déclic? Qu'est-ce qui t'a fait que tu t'es dit, OK, maintenant, il faut que je m'y mette?
Alors, déjà, quand je vois ce qui se faisait chez les infopreneurs, parce qu'ils ont tous un produit concrètement pour monter son blog et le monétiser. Mmh. Le problème, c'est que tu prends les pages de vente, t'enlèves le nom, ça pourrait être n'importe qui. Tu vois, et quand t'as un discours qui devient très homogène, parce qu'ils se cachent tous derrière l'excuse, oui, mais on utilise les principes de copywriting qui sont indémodables, mais ils utilisent tous les mêmes. Mmh. C'est ça le problème, ils n'arrivent pas à les transcender, ces trucs. Mmh. Et tu vois, je me suis dit, putain, est-ce que nous, finalement, on n'est pas en train de souffrir de ça? Mmh. D'avoir quelque chose de trop générique et finalement de pas assez différenciant. Mmh. Surtout en plus dans le vêtement, les gens veulent une patte au bout d'un moment. Notre client, il apprend le vêtement avec nous, il commence à apprendre ses basiques et maintenant il dit, bon, ok, après, qu'est-ce que j'ai finalement? Mmh. Et du coup, on s'est dit, bon, il faut qu'on soit on fasse une impression un peu plus forte et qu'on soit vraiment légitime en tant que marque de vêtements. Que le vêtement Bonne Gueule, ça ne soit plus le vêtement d'un blog qui alors c'est sa marque, mais que ça soit une vraie marque de vêtements et que même quelqu'un qui ne connaisse pas Bonne Gueule puisse arriver et kiffer le produit. Et donc, c'est important d'être. Et c'est important de construire ça, de construire cette image. Et ouais, le déclic, il n'y a pas eu de déclic, mais il y a eu un truc très. Assez pareil, vraiment une réflexion qui a beaucoup maturé. Et justement, le fait d'être resté à Paris, l'avantage, c'est qu'on a pu rencontrer plein d'entrepreneurs et de créateurs dans la mode. Et justement, tu sais, un moment, tu fais un déjeuner, on te parle d'aspérité, ensuite on fait un autre, on te parle de différenciation. Puis tu vois, ça te fait réfléchir. Ça dit, mais est-ce que finalement, ça te remet beaucoup en question et tu dis, bon, il y a un moment, là, où on veut amener Bonne Gueule, où on veut amener la marque de vêtements, il faut que l'image de marque suive. Mmh. Et donc en plus, nous, on regardait pas mal ce qu'ils faisaient aux États-Unis en termes de marques un petit peu innovantes. Mmh. Et on s'est dit, face à la concurrence qui s'intensifie, il faut qu'on ait une personnalité un petit peu plus forte qui passe par le branding.
Alors, quelle est votre vision aujourd'hui? Combien de boutiques Bonne Gueule? Quel chiffre?
Alors, donc nous, aujourd'hui, comme je t'ai dit, les gens nous connaissent très bien en tant que médias, mais beaucoup moins en tant que marque d'événements. Mmh. Donc du coup, on va faire un truc qui a, je crois, jamais été fait par les infopreneurs. On va faire une campagne de pub dans le métro.
Ok.
Ouais, alors je peux te dire que…
Il y a une campagne de pub pour mon bouquin,
oui,
dans le métro.
J'ai vu.
Mais c'est vrai que ce n'était pas pour un produit d'infoprenariat. Donc voilà. Ok, intéressant.
Donc on va tenter, on va voir ce que ça va donner. Alors, c'est Geoffrey qui a chapeauté le projet, donc Geoffrey qui m'a associé. Et si ce n'est pas héroïste, il ne le fait pas lui, hein, vraiment. Donc Il a appelé tous nos copains entrepreneurs qui avaient déjà fait des campagnes de pub dans le métro en disant voilà, combien t'as payé, qu'est-ce que ça t'a rapporté, quelles ont été les retombées. Puis il m'a dit bon, Benoît, j'ai fait mes devoirs, on le fait.
Donc tu penses qu'il va y avoir un ROI positif?
Je pense. De combien, je ne sais pas. Je serais ravi de te donner mon feedback par rapport à ça.
Super.
Donc voilà, on va faire ça. On continue à travailler beaucoup sur le branding, justement sur l'image des shootings, là on a un chef produit par exemple qui a quasiment 10 ans d'expérience dans le prêt-à-porter masculin. Mmh. Donc pareil, on a beaucoup changé ce qu'on appelle le collectionning, c'est-à-dire comment est structurée ta collection de vêtements. Parce qu'avant c'était beaucoup à l'envi, tiens, je vois telle matière, faisons-en une chemise. Ah, je vois telle matière de jean, on n'a qu'à faire un jean. Sauf que tu as déjà sorti 3 jeans, tu as déjà sorti 4 chemises et que c'est pas tout à fait cohérent. Mmh. Donc Julien, qui est chef produit, m'a apporté un peu cette vision. Attends, la Benoît, c'est un peu le bordel, c'est trop à l'intuition, à l'envie, il faut qu'on structure un peu ça. Donc avoir une collection qui est plus cohérente, qui est plus crédible, plus facilement compréhensible. Au niveau du retail physique, le but, c'est pas d'ouvrir 15 boutiques, mais voilà, d'arriver à cibler les villes où il y a un potentiel. Donc on a un data analyst en interne qui fait mouliner plein de choses, hein. Il regarde notre nombre de clients online dans telle ville, le nombre d'habitants, ceci, cela. Et puis à partir de ça, on arrive à prendre des décisions sur le retail. Donc là, c'est Lille. Pareil, alors sur le retail, on veut encore aller plus loin au niveau de l'expérience boutique. Mmh. Là, on a des super conseillers, on a une belle boutique. Vraiment, on a des super commentaires des clients qui sont très contents d'avoir une expérience assez unique en boutique. et on veut encore aller plus loin, encore avoir une expérience encore plus unique. Donc là, on va lancer les recrutements pour recruter un directeur de l'expérience retail pour savoir comment on peut être une boutique vraiment hyper impactante et vraiment marquante, un peu comme ce qu'on a vu au Japon, Geoffrey et moi. Donc il y a ça, un gros travail sur le retail, un gros travail sur la communication autour de la marque. Il y a toutes ces logiques de boîte classique finalement.
Oui. Et donc ça t'excite tout ça?
Ouais, bien sûr, parce que je me dis, mais où est-ce que ça va s'arrêter finalement? Et puis on continue à avoir une belle expérience et apprendre encore et encore. C'est ça qui est génial. Même si, tu sais, mon plaisir, c'est toujours de temps en temps de me lire un petit guide sur comment faire un cours online, quoi, tu vois, histoire de c'est toujours mon petit plaisir. Mais ouais, effectivement, c'est de l'infopreneur à l'entrepreneur. Ça a été une aventure humaine qui en tout point fut vraiment passionnante, qui n'a pas toujours été facile. Et de ces moments compliqués, j'ai énormément appris, quoi. Je suis très content de l'expérience que j'ai pu avoir et que je suis en train de continuer à avoir. Parce que tu vois, on a fait aussi une levée de fonds.
Ah bon, vous avez fait une levée de fonds?
Ouais.
Pour financer les magasins physiques?
Pas seulement, c'était surtout pour agrandir l'équipe. Parce qu'on avait besoin de profils.
Intéressant, un infopreneur classique ferait un lancement pour financer ça plutôt que de faire la levée de fonds.
Ouais, mais là, il y avait beaucoup.
D'accord.
Il nous fallait un peu plus. D'ailleurs, j'ai fait un très long article.
Pour expliquer?
Pour expliquer la levée de fonds. J'ai dû expliquer qu'est-ce que c'est qu'une.
Ouais, parce que vous êtes très transparent aussi sur le processus, ouais, la stratégie, etc.
Ça, c'est un truc hyper important.
Ouais.
Parce que justement, moi, que ce soit dans la mode ou dans l'infoprenariat, il y a beaucoup de petits arrangements avec la réalité, on va dire. Avec les gens ne disent pas tout à fait la vérité ou l'embellissent à mon goût parfois un peu trop. Et un moyen de se différencier, c'est de dire, d'être vraiment transparent pour de vrai, entre guillemets. De dire, voilà, on vous cache rien. Donc j'ai fait un long article avec Geoffrey de 3000 mots, je crois.
Qui s'appelle comment?
Qui s'appelle Bonne gueule, fait une levée de fonds, on vous explique tout.
Voilà, on vous mettra le lien en description.
Il y a eu 100 commentaires, les investisseurs ne voulaient pas qu'on le fasse en disant, mais les gens ne vont jamais comprendre pourquoi vous faites ça. Et je dis, si. C'est notre mission à nous, c'est de leur faire comprendre. Et chez Bonne Gueule, on a le savoir-faire nécessaire en termes de pédagogie pour le faire. Donc j'ai fait cet article-là où j'explique tout le pourquoi du comment de la levée de fonds. Et dans les commentaires, j'étais content de voir qu'il y avait certains profs en école de commerce qui l'utilisent dans leurs cours.
Ah, super.
Ouais, c'est vraiment très cool.
Donc vous avez fait rentrer les actionnaires au capital,
ouais,
qui sont actionnaires minoritaires.
Tout à fait, ouais. Geoffrey et moi, on est très, très, très largement majoritaires.
Mais du coup, ces actionnaires peuvent vous donner des conseils stratégiques.
Ah oui, mais ça a été c'était génial parce que par exemple, on a l'ancien directeur financier d'Airbus.
Ah super.
Donc ça, quand tu as besoin de structurer financièrement ta boîte, c'est vraiment super. On a aussi François que je salue, qui a été notre coach, qui est aujourd'hui investisseur chez nous, qui était l'ancien président Europe de Mars, c'est les barres chocolatées. Donc en management, lui, il a tout vu et tout vécu. Donc c'est à chaque fois, tu vois, quand tu te poses des questions sur le leadership, comment motiver une équipe, comment on est exemplaire, il a une vraie sagesse, tu vois, il a plus de 60 ans et c'est hyper hyper intéressant. C'est pour ça que je regrette pas tout ça parce que en retour j'ai tellement appris et c'est ce que je déplore quand je vois certains infopreneurs, c'est que une fois que la machine tourne bien, ils sont plus motivés par faire de la croissance. Il y a une espèce de train-train qui s'installe. Et ils n'ont pas la chance de rencontrer ces profils que j'ai pu rencontrer qui sont d'une très grande sagesse et d'une très grande aide.
Oui, après, tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Et tu as des gens comme Cédric Anissette qui se développent énormément. Mais c'est vrai que du coup, comme ils ont tendance à partir un peu loin, ce n'est pas aussi évident pour eux peut-être de rencontrer des profils comme ça.
Moi, je suis très content d'être resté à Paris. On aurait pu partir je ne sais pas où, mais les mecs qui étaient capables de faire passer Bonne Gueule à une étape supérieure, ils étaient à Paris. Ils n'étaient pas en train de se la couler douce sur une île, ils étaient en train de former des équipes.
Après, ces infopreneurs, souvent, vont se former aux États-Unis dans des événements.
C'est vrai.
Ils ont peut-être aussi l'occasion de rencontrer des gens là-bas qui peuvent les aider, mais sans la culture, effectivement.
C'est pas pareil.
Ouais.
C'est pas tout à fait pareil. Effectivement, il y a ces grands événements aux États-Unis, mais tu vois, le fait de passer une heure.
Même les événements en France, maintenant, il y en a quand même pas mal, hein.
Ouais, même si là aussi, je déplore que ça sert plus à pitcher un autre produit plus cher qu'à vraiment donner de la valeur aux gens, tu vois. Moi, j'en ai fait quelques-uns d'ailleurs parce que je t'ai invité et il y a eu des événements où j'étais quand même hyper déçu parce que c'était très… au bout d'un moment, quand tu fais un ou deux millions, et ben, l'étape d'après, finalement, tu n'as plus grand monde. Tu n'as pas un infopreneur qui existe en France sur l'étape d'après, quoi, tu vois. On t'apprend de passer de 0 à 1000 euros par mois, mais pas de 1000 à 100 000 euros par mois.
Et
encore moins de 1000 à 1 million d'euros par mois. Et ça, pour moi, cette compétence-là, on l'a eu, enfin, on a accès à toutes ces compétences-là via notre réseau à Paris.
Mmh. Oui, et ça, on voit vraiment la richesse que tu as obtenue intellectuelle et de compétences en explorant ces deux mondes-là, en les faisant se joindre.
Oui.
Et je pense d'ailleurs, hein, pour tous les rebelles intelligents qui nous regardent encore, qui sont donc normalement super motivés, je veux dire, il y a vraiment une énorme carte à jouer en francophonie, même dans le reste du monde, en prenant le meilleur de ces deux mondes-là. Là, tu en es un excellent exemple et tu es une toute petite minorité, donc il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire.
Mais, tu vois, tu parlais de Cédric Anicet, je sais qu'il a un site sur le régime paléo, mais il faut qu'il lance des compléments alimentaires paléo, tu vois. Là-dessus, la scalabilité, elle va être complètement folle.
Je sais qu'il a lancé des produits physiques, mais bon, tu sais, un peu genre goodies, quoi, mug, etc., ce qui est peut-être une première étape.
Mais il faut aller plus loin.
Après, il fait du bon boulot. Je pense qu'un jour, il va se mettre à faire ça.
Et ça, je pense que c'est un truc qui peut le faire passer de 6 millions à 12 millions. Quoi, tu
Donc, vois. Cédric, si tu nous regardes, Benoît peut être disponible pour
comme
consultant.
Il est cher,
mais ça
ne
ça
pas avoir peur du produit physique. C'est mon message à tous les infopreneurs, parce que quand même, quand tu as ton nom sur un objet tangible, c'est, ça n'a pas de prix non plus.
Alors, par exemple, quelqu'un comme moi, qu'est-ce que je pourrais faire comme produit physique? Tout à l'heure, tu as dit des sacs de voyage, par exemple.
Alors, j'ai réfléchi, parce que je me suis dit, et c'est vrai que je dis ça pour les infopreneurs, mais qu'est-ce que à Olivier, qu'est-ce que je pourrais lui dire?
Vu que tu connais bien, enfin tu connais bien mon positionnement et tout ça.
Alors moi c'est bête, mais je pense que je ferais. T'as fait un livre.
Oui.
Que t'es passé par un éditeur.
Oui.
Mais moi je pense que après Bonne Gueule, parce que s'il y en a pris un jour dans, je sais pas, dans 5, 10, 15, 20 ans, j'aurais envie de faire un très très beau livre. Tu vois, un livre à 50 balles, un très bel objet physique, un peu comme une Bible quand un entrepreneur serait dans la tourmente, qui pourrait serrer contre lui et se dire, tu vois, un bel objet rassurant. Aux États-Unis, j'ai vu quelques exemples de mecs qui avaient fait des livres à 50$. Je m'intéresse de plus en plus aux très très beaux livres, tu vois, en tant que bel objet. Et tu as des trucs fabuleux. Et moi, je te conseillerais de faire un très beau livre, mais tu vois, un truc vraiment avec beaucoup, très différencié, pas avec la couverture en carton souple, tu vois. Faire un truc vraiment.
Vraiment beau, quoi.
Voilà, un bel
objet qui,
tu voudrais avoir dans ta bibliothèque, tu vois, qui pourrait te poser sur cette cheminée, quoi, qui est très design.
Que vous ne voyez pas, mais qui est très sympa.
Exactement.
Ouais.
Donc, un bel objet physique, ou sinon, sur de l'objet de voyage, faire des collaborations avec des marques. Je suis sûr qu'il y aurait des choses à faire. Si on fait un petit brainstorming, je suis sûr qu'on va trouver.
Ok, bon, intéressant. Et donc, aujourd'hui, quel est votre rôle à toi et à Geoffrey?
Alors, Geoffrey, lui, s'occupe de la partie stratégie marketing croissance.
C'est ce qu'il faisait déjà en 2012.
Exactement. Donc, ça n'a pas changé. Et moi, je m'occupe de la partie produit avec mon chef produit et de la partie contenu avec mon rédac chef.
Donc, tu faisais déjà le contenu, effectivement, en 2012. J'aime sauf tout. Que là, tu délègues beaucoup plus, j'imagine.
Ouais, moi, je suis un très mauvais chef de projet. Vraiment.
D'accord.
Que les projets arrivent en temps, en heure, c'est pas ma plus grande compétence, on va dire. Du coup, Christophe, qui est mon rédacteur en chef, fait un boulot fantastique. Et moi, je continue. J'adore le contenu. Je continue à aimer ça, donc je continue à m'occuper de ça. En fait, j'aime dire ce pourquoi les clients viennent sur Bonne Gueule, à savoir pour du contenu ou pour du vêtement. Et ben, c'est moi qui suis derrière ça.
Ok. Wow.
Voilà. Geoffrey dit que je suis le contenu, et lui dit qu'il est le contenant.
Voilà. C'est une belle image, oui.
Voilà.
D'accord. Donc lui va habiller. Toi, tu vas écrire le livre, et lui va en faire un bel objet.
Lui, je pense qu'il va faire l'opération Kickstarter pour qu'on ait, on ait 100 000 dollars dans les deux heures, l'acquisition, etc. Le communiqué de presse, il serait plus comme ça.
Bah, avec la force de frappe que vous avez, le crowdfunding, ça va bien marcher. Vous avez déjà testé?
Non, alors il y a des marques qui se construisent là-dessus, sur le système de précommande. Effectivement, c'est quelque chose que moi, j'aimerais bien faire. Mais là aussi, j'aimerais pas le faire comme tout le monde. Parce que les marques qui le font ont une approche très basique, vendent des produits basiques encore moins chers que d'habitude.
Ouais.
Et moi, j'aimerais prendre le contre-pied, vendre des vrais produits de luxe, mais pour le coup moins cher. Ça serait quand même des produits à 300, 400, 500 euros, mais qui seraient vendus normalement 1500 ou 2000 euros. Donc quelque chose de plus niche et de plus passionné. Parce que je m'ennuierais, moi, si je sortais une chemise toute simple, blanche, enfin, ça serait pas, je serais pas épanoui en faisant ça.
Ouais.
Donc une approche de la précommande, mais beaucoup plus orientée luxe.
Alors du coup, tu vois, tu m'as dit quelque chose de très intéressant. Tu m'as dit finalement, il n'y a pas d'infopreneur en français qui t'explique comment passer de 100 000 euros à 1 million et au-delà.
Oui.
Donc pour tous ceux qui nous regardent encore et qui donc sont vraiment ultra passionnés par tout ça, quel est toi le conseil que tu donnerais, ou peut-être les conseils bon, rapides, hein, pour passer de 100 000 à 1 million et après au-delà?
Alors déjà, aux États-Unis, tu as Ramit Sethi qui a sorti récemment un produit justement qui s'adresse à ces infopreneurs-là.
D'accord.
Le conseil, en fait, si tu veux, la croissance, c'est toujours des multiples de 1 à 3. C'est-à-dire qu'il faut passer de 0 à 3 employés. Le prochain gap, il va être pas à 6 employés, mais à 10 employés. Une fois que tu as 10 employés, le prochain gap, il va être à 30 employés. Le prochain, il va être à 100. Mmh. Et c'est pareil pour ton chiffre d'affaires. Donc, mon conseil pour passer de 100 000 à 1 million, c'est une bonne question parce qu'au bout d'un moment, l'acquisition, tu vois, c'est un moment où il faut… créer une marque différenciante, différenciée. Mmh.
Donc, faire du branding, ouais.
Faire du branding pour que le mec, il comprenne pourquoi est-ce que j'irai chez Olivier Roland plutôt que chez…
Après, bon, j'ai quand même un personal branding qui est fort.
Ouais, qui est très fort. Toi, pour moi, t'es plutôt le bon exemple parce que t'as fait un livre qui a marqué les esprits. T'as plus de 100 000 abonnés sur ta chaîne YouTube. Mmh. Et justement, de manière intuitive, t'as commencé à, je sais pas si tu t'en es rendu compte, t'as commencé à construire ça. Et je pense que si t'as un positionnement qui est très clair par rapport à d'autres infopreneurs. Mmh. Donc, de passer de 100 000 à 1 million d'euros par mois, faut une équipe et il faut être structuré pour. Oui. Il faut avoir une équipe qui est prête à accueillir cette croissance. Mm-hmm. Ça c'est la première chose. Mm-hmm. Faut sortir plus de produits et
y compris des produits physiques donc.
Y compris alors voilà produits physiques et sortir plus de produits.
Après on peut passer en tant qu'infopreneur de 100 000 à 1 million sans produits physiques, mais bon.
Par mois ça commence à être quand même un peu chaud.
Et moi je rajouterais dans tout ce que tu as dit là, pour moi une des clés qui a fait une grosse différence c'est de faire des belles études de cas en fait de mes clients et de prendre carrément
tu l'as dit c'est ce qui a fait la différence.
Un vrai réalisateur qui nous a fait des trucs genre Discovery Channel quoi. Bah, c'est vrai que là il y a du branding ouais,
t'as fait du branding ouais, t'as vu ce que ça a donné.
Ah ouais, tout de suite l'esthétique, les gens ont craché beaucoup plus
et voilà t'as vu ce que ça a donné, c'est devenu viral ton petit court métrage et je me suis dit mais Olivier il a tout compris, j'ai vu la vidéo, c'est génial.
Ouais.
C'est vraiment bien, mais t'as fait du branding, t'as fait un truc qui n'était pas très répandu en France, qui changea un peu l'interview sur le canapé classique, comme on est en train de faire.
Du coup, pas de quoi tu parles.
Mais tu vois, t'as mis quelqu'un qui allait filmer les gens chez eux, enfin, ouais. Il y avait un côté humain, quoi, tu vois. Mmh. Et je sais pas si tu t'es aperçu de la portée de ce que t'as fait à ce moment-là.
Bah, ça a eu un impact, si, quand même. Ouais.
Mais en termes de branding, en termes de changement, de parce que t'aurais pu dire 20-80, on va chez les gens, on prend une GoPro et on les interroge.
C'est ce que j'ai fait au début. Ce qui est déjà très bien parce que les études de cas, c'est super important.
Il faut le faire, mais la marge d'après, je trouve que tu l'as très très bien faite.
Ouais. Et alors après, à côté de ça, je continue à faire des vidéos avec ma petite caméra à la main et qui est un peu pourrie, quoi. Mais effectivement, ouais. Donc, j'abonde dans ton sens là-dessus. Bah, déjà, donc, finalement, pour résumer un peu tout ça, au bout d'un moment, il faut investir pour avoir un truc un petit peu plus chiadé. Le 20-80, c'est très bien pour aller jusqu'à
100 000. Pour commencer, il faut le transcender et l'inclure, comme dirait mon ami Valentin.
Et donc, pour ça, il faut savoir prendre des professionnels parce que vous n'allez pas commencer à apprendre comment devenir Spielberg. Ça va vous prendre un temps fou, ça va vous tuer.
Ouais, exactement.
Il vaut mieux prendre un Spielberg, le payer. Et
il y a un moment, il faut sortir un peu de ce mindset, de la tactique, du quid wings, de machin, comment est-ce que je vais chercher 0,5% en plus dans la conversion et se dire, bon. Ok, comment je peux faire une opération qui soit vraiment différente de ce que font les autres. Qu'est-ce que moi je veux apporter au monde et comment je peux le mettre en scène, comment je peux l'expliquer. Mmh. Et effectivement, comment passer de 100 000 euros à 1 million, il y a un moment, il faut investir dans son image. Mmh. Et typiquement, c'est ce que tu as fait. Mais moi, honnêtement, le gap de passer de 0 entre 100 000 euros, il a été bien plus difficile que de passer de 500 000 à 1 million.
Oui, ok, ouais, ben c'est ce que beaucoup d'entrepreneurs, infopreneurs disent. Et c'est vrai, c'est au bout d'un moment qu'on sait comment ça marche, il suffit de faire un peu plus
quand,
de
quand la boîte est structurée pour, quand elle a l'équipe qui est prête à gérer cette croissance et à la créer, il n'y a plus aucun problème finalement.
Puis vous avez des ressources aussi pour faire des choses plus belles. Acheter du trafic éventuellement. Vous faites un peu de pub sur Facebook.
Oui, bien sûr. Ouais. Justement cet été, on a recruté une responsable acquisition.
D'accord.
Dans ce métier.
D'accord.
Ça fait 5 ans qu'elle fait ça. Donc voilà, un début de réponse pour passer de 100 000 à 1 million, c'est qu'il faut investir dans son équipe, il faut investir dans ses profils, avoir des bons chefs de projet. Et je sais que tu le fais, mais je vais quand même y mettre une réserve. Il y a un moment où on peut plus fonctionner avec que des freelances.
Mmh, intéressant.
Ouais. Tu veux un mec qui te fasse une acquisition, qui t'amène du lead, et ben t'embauches un top gun. Tu veux un mec qui gère tes lancements, t'embauches un super chef de projet. Il faut créer l'équipe qui va te permettre d'aller chercher ce chiffre d'affaires. Pour moi, le conseil que je pourrais donner aux infopreneurs, ça serait ça. C'est qu'il y a un moment, si vraiment tu veux faire du Cédric, il a créé une équipe, il a pris des bureaux, c'est devenu une boîte normale, quoi.
Oh oui, il m'a dit aussi qu'effectivement, d'après lui, c'est un facteur extrêmement important. Bon, moi, j'ai que des freelances, il n'y a aucun bureau physique, tout le monde travaille en remote sans aucun horaire de bureau.
Oui.
Toi, tu crois pas à ce modèle-là,
le travail à remote ? Alors, j'y crois, mais jusqu'à un certain moment. Je pense que pour aller chercher 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, à un moment, Mais tu es obligé d'avoir une équipe avec une culture d'entreprise, des valeurs, à les motiver, avoir des bureaux, à souder l'équipe, quoi, tu vois.
Bah écoute, challenge accepté. Je vais tenter de t'atteindre les 5 millions sans avoir de
bureau physique. En remote avec des freelances.
Et je pense que c'est possible. On verra bien.
Je pense aussi. Et je serais ravi que tu me donnes tort.
Bah écoute, ça serait un super challenge. Donc allez, je vais quand même dire les chiffres. Là, je suis à peu près à 2 millions par an.
Hein, ouais, c'est pas grand-chose, remarque.
Donc, il faut que je fasse un peu plus que deux fois.
Pour
ça
moi,
me paraît...
t'es pile au…
Surtout que franchement, très honnêtement, je travaille pas beaucoup par rapport à certains.
Ouais, t'es pile au plafond où là, il va falloir justement…
Ouais, il va peut-être falloir que je me retrousse les manches un petit peu, ouais.
Et se mettre en place Et que tu te remettes un peu en question dans le sens où, bon, c'est pas en faisant un lancement en plus que je vais y arriver. Donc, je suis très intéressé de voir ce que tu vas préparer en tant que nouveau produit, où je pense que le modèle, il va évoluer, ta ligne de produits.
Ça va passer par d'autres produits, c'est sûr.
D'autres produits, mais pour moi,
une augmentation du trafic des blogs que j'ai laissé…
à la limite où on peut encore y arriver tout seul en mode freelance, parce que Ramit Sethi, lui, je crois qu'il a commencé à embaucher ses premiers employés. Je crois que c'était aux alentours des 2-3 millions, justement.
D'accord.
À peu près. Il faut que je retrouve le PDF, je te l'enverrai. Vous détaillez ça, mais je crois que c'était aux alentours des 2-3 millions. Donc toi, tu es pile à la limite.
Est-ce que tu crois à la possibilité de laisser tes employés travailler à distance, peut-être partiellement?
Alors,
d'après toi
Nous, c'est du télétravail. Hein. La question que tu me poses, c'est est-ce que je crois au télétravail?
Oui, tout à fait.
Nous, c'est autorisé chez nous. Il y a des boîtes où ce n'est pas le cas. Oui, c'est possible, mais moi, je suis quand même partisan. Tu vois, les mecs, ils sont ensemble, c'est une équipe et ils sont soudés, quoi. Tu vois, ils sont soudés, il y a des liens qui se créent, il y a des synergies. Il y a ce côté un peu intangible et peut-être qu'effectivement, ça me coûterait moins cher qu'ils soient tous à distance et tout, mais c'est pas l'aventure humaine que je veux vivre, quoi.
Tu vois, veux vraiment créer une culture avec des gens.
À mes petits-enfants, j'ai pas envie de leur dire, ouais, regardez, les enfants, j'ai créé des employés en tous sens des travaux. J'ai envie de leur dire, il y avait une vraie équipe. Pourquoi pas? C'est ensuite, moi je respecte.
Surtout tes petits-enfants, à mon avis, quand ils seront en âge d'écouter ça, à mon avis, ça sera très répandu.
Ça sera très répandu, c'est vrai. Mais je respecte tous les choix. j'ai envie certains infopreneurs à certains moments, dans les moments les plus difficiles de bonne gueule, j'ai pas pu m'empêcher d'envier les infopreneurs qui étaient tout seuls, qui avaient rien à gérer, qui avaient pas rien à gérer, mais c'était beaucoup plus simple. Mais moi, j'ai envie, tu vois, l'aventure humaine, j'étais pas préparé, mais j'y ai pris goût et j'ai envie, tu vois, c'est ça que j'ai envie de donner aux employés, quoi, tu vois, j'ai envie qu'ils viennent dans un beau bureau, qu'ils fassent un truc où ils apprennent des choses, qu'il y a un collectif qui se crée. Tu vois, c'est une équipe de foot que je veux avoir. Et ce n'est pas une équipe de foot, elle ne peut pas se faire quand tu as chaque joueur qui s'entraîne en remote. Et c'est un peu ce… Moi, je vais dans cette direction, en tout cas.
Bon, en tout cas, une discussion extrêmement intéressante et enrichissante. Donc, peut-être que dans 6 ans, on fera un bilan et on verra…
Rendez-vous, du coup, en 2024.
Oui, exactement. My God, ça paraît lointain, mais comme ça paraissait lointain aujourd'hui de 2012. Ouais. Et puis je veux dire, jetez un œil sur cette interview de 2012. Voyez aussi à quel point Benoît a mûri. Donc, dommage que Geoffrey n'ait pas pu venir, mais c'est impressionnant, à mon avis, juste de voir ton assurance, comment tu t'exprimes et tout. Ça a pas mal changé parce que je te dis, je l'ai vu il y a quelques
années. Oui, c'est vrai que.
C'est impressionnant de voir la transformation. Et là, peut-être dans 6 ans, tu seras.
Oui, mais c'est vrai qu'en 2012, je découvrais l'entrepreneuriat, quoi. J'étais encore tout timide, je ne me sentais pas forcément légitime. Le syndrome de l'imposteur.
Oui.
Tu vois que j'ai appris grâce à toi il y a 10 ans justement. Et je pense que j'en étais un petit peu atteint. Non pas en tant qu'infopreneur expert du sujet, mais plutôt en tant qu'entrepreneur. Et justement là, tu es content d'avoir des coachs qui t'aident à dépasser ça.
Bon, écoute, waouh.
Voilà.
Merci beaucoup Benoît d'avoir partagé tout ça avec nous en toute transparence.
C'était un plaisir.
Et profondeur, j'espère que ça vous a inspiré, chers amis. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur? Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez dans le podcast, tout simplement. Ça aidera d'autres rebelles intelligents comme vous à trouver le podcast et puis à être inspiré tous les jours ou presque par lui. Merci et à très vite pour de nouvelles aventures.